Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, le rendez-vous des zinzins de l'Undercut, c'est tous les lundis sur ta plateforme de téléchargement préférée et sur rmc.fr. Paddock RMC, spécial Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. C'était le retour de la Formule 1 en Europe, la septième manche de la saison. Et pour en parler, nos ingénieurs du jour, Jean-Luc Roy, Alex Caldi et Louis Gerbier. Salut les gars.
Hello.
Et salut Nico, bonjour à tous.
Salut tout le monde.
Bon alors, est-ce que les avis sont partagés? On s'est ennuyé ou pas là sur ce Grand Prix à Imola?
Moi un peu.
Moi pas du tout.
C'est de la Formule 1, on se régale tous les jours.
Ça j'adore, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet les gars, avec ce Grand Prix à Imola, où encore une fois, Verstappen est le plus fort.
Départ de Verstappen qui reste bien à la corde et qui verrouille Lando Norris. Charles Leclerc va essayer de se faufiler à l'intérieur. Est-ce qu'il va y parvenir? Non.
Du côté des Français, c'est la Bérésina, faut bien le dire, puisque Ocon est 14e à un tour et Gasly 17e, évidemment, à bien plus d'un tour.
Wow. Et là, masterclass de Jean-Luc Roy.
Et Verstappen se plaint auprès de son ingénieur, Giampiero Lambiase. La pression est énorme maintenant dans les rétroviseurs de la Red Bull de Verstappen, qui ne compte plus que 7 dixièmes, 8 dixièmes d'avance seulement sur Lando Norris, qui déploie tout son talent, le jeune Britannique. Maintenant, Lando Norris va retarder son freinage au maximum. Il est maintenant dans le sillage, dans la boîte de vitesse de la Red Bull du leader Max Verstappen. Voilà, on avance la chicane. Non, elle est bien négociée pour Verstappen. La descente maintenant vers Rivazza, ça va être le double gauche délicat. Verstappen est sorti également de la piste tout à l'heure. Il n'y a plus que quelques mètres maintenant d'écart. Voilà, elle y est, cette victoire pour Max Verstappen.
Et c'est pas mal, Jean-Luc, hein, quand tu commences avec un peu un petit air d'opéra comme ça.
Ah, c'est régal, hein.
Moi, j'aime bien, moi.
Bon,
le classement.
J'espère que ça vous a plu, les gars, de toute façon.
Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que déjà, pour revenir sur notre débat, est-ce que vous êtes ennuyé ou pas, la fin de course, quand même, fait que ça aurait peut-être pu être totalement fou, le scénario de cette fin de course. Le classement, quand même, je vais refaire le point sur tout ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix. Max Verstappen, du coup, s'impose avec seulement 7 dixièmes d'avance sur la McLaren de Lando Norris. Charles Leclerc complète le podium avec sa Ferrari. Piastri est quatrième devant Carlos Sainz. Les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell terminent sixième et septième. Sergio Perez, qui a été en difficulté hein, tout au long du week-end, est huitième. Lance Stroll sur son Aston Martin, neuvième. Et Yuki Tsunoda, une nouvelle fois, arrive à grappiller le point de la dixième place. Derrière, les Alpines sont en difficulté. Vous l'avez entendu dans la petite prod réalisée par Romain Leroutier. Esteban Ocon 14e, Pierre Gasly 16e, Fernando Alonso 19e et Alex Albon sur sa Williams a dû abandonner. Au classement des pilotes, ça nous donne quasiment 50 points d'avance pour Max Verstappen, 48 précisément sur Charles Leclerc. Sergio Perez est 3e, Lando Norris revient à 6 points de Perez, à 12 de Charles Leclerc. Il est 4e au classement des pilotes et classement des constructeurs. Red Bull est toujours devant avec 268 points, 212 points pour Ferrari et McLaren qui se rapprochent, même s'il y a encore un bel écart entre McLaren et Ferrari. McLaren à 154 points. Jean-Luc, oui. Du coup, ton avis global sur cette course, sur ce Grand Prix, moi c'est vrai qu'en la regardant, je me suis dit, bon, c'était pas super passionnant, même si y a ce retour de Norris en fin de course. Toi, tu t'es régalé?
Ah oui, franchement, je me suis régalé pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'on a bien compris, et de toute façon, les essais libres le démontraient, que les Red Bull n'étaient pas dominatrices du tout, et qu'il a fallu vraiment que Verstappen déploie tout son talent, vraiment, d'abord pour signer la pole. Hein. Je crois qu'on l'a rarement vu, c'est un garçon réservé, aussi heureux d'avoir décroché une pole, donc c'était un critère. Puis je te dis, il ment pas. Il y a tellement de pilotes qui font du cinéma, qui en rajoutent, qui surjouent, surtout avec Netflix maintenant, ce sont des acteurs de théâtre. Là, Verstappen, jamais, et j'ose le dire, jamais. Lui, il dit la vérité, il manipule pas ses adversaires. Donc, on a compris dès le départ que ok, peut-être qu'il allait finir par l'emporter, mais pas de beaucoup. Et d'ailleurs, l'écart ne s'est jamais creusé beaucoup. Après, il y a eu un autre épisode sur lequel bien évidemment, il faut revenir. C'est au moment où la Ferrari de Leclerc revenait très fort sur la McLaren. Il y a quand même eu cette passe d'armes également, hein, où on a bien cru à un moment que peut-être Charles allait parvenir à décrocher la deuxième place. Bon, l'alerte a été chaude, mais il l'a repoussée. Et puis le final. Non, moi, sincèrement, par épisode, je ne te dis pas que chaque tour a été absolument passionnant, formidable, même si derrière, comme toujours, et c'est l'énorme avantage de la radio sur la télé pour avoir fait les deux, bah, la télé, tu es tributaire de l'image. C'est-à-dire, t'es obligé de commenter ce qui se passe. La radio, tu fais ce que tu veux, et moi, je m'en prive pas. Bah, tu vas regarder derrière les écarts, qui par rapport à qui. Donc non, je me suis pas ennuyé vraiment une seconde.
Est-ce que Jean-Luc, pour rester sur ton analyse là, pour toi, c'est la victoire de Verstappen la plus marquante depuis le début de saison? Parce que sa voiture, pour le coup, était à la rue en début de week-end. Clairement, il le disait, je suis pas bien dans la voiture. Quand il est arrivé à Imola, ça se passait pas bien, les réglages n'étaient pas bons, il y avait pas des bonnes performances. Et ils ont réussi à tout inverser sur ce week-end là, donc c'est peut-être la victoire de Verstappen la plus impressionnante.
Ah oui, tout à fait d'accord avec ça, absolument. Là, c'est une victoire, je dirais, de pilote et pas de machine. Et d'ailleurs, il suffit, on va en parler, de voir ce que le pauvre Pérez a fait de la sienne, Red Bull. Donc, on voit bien, ça, c'est peut-être le réel niveau de la Red Bull ce week-end. Donc, c'est une victoire de pilote et... Quoi qu'on en dise, c'est quand même ce qui passionne le plus des gens. Les batailles d'ingénieurs, c'est formidable, on est bien d'accord. Et puis cette omniprésence des ingénieurs dans les radios, là aussi, moi qui me gonfle, hein, je le dis clairement, parce qu'à une autre époque, eh bien, c'est le pilote qui décidait de tout. Ça, c'était un talent supplémentaire du pilote. Aujourd'hui, il est guidé sans arrêt. On sait très bien qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'ingénieurs à l'usine qui surveillent tous les paramètres et qui font remonter les infos sur le circuit. À l'ingénieur. Donc, si tu veux, le pilote, il est cadré, il est guidé. Et là, d'ailleurs, à un moment, comme toujours, parce que là aussi, il a une grande gueule quand il veut, Verstappen, il s'est emporté par rapport à Lambiaz, et dont je parlais tout à l'heure, en disant, mais laisse-moi piloter. Il remonte, j'ai compris, je suis pas con, je le vois. Parce que les pilotes, là aussi, ont quand même une capacité à voir. Et tu sais, dans le passé, il te racontait déjà qu'il surveillait les écarts sur les grands écrans, sur le bord de piste. C'est particulièrement vrai à Monaco. Tu vois, je te fais du teasing. Parce qu'à Monaco, évidemment, il n'y a aucune visibilité derrière. Hein. C'est entre des rails, entre des maisons. Et donc, il regarde les écrans, il voit où il se trouve. Donc, moi, je trouve ça génial. Une victoire de pilote. Donc, oui, pour moi, c'est la plus belle depuis le début de la saison, mais peut-être depuis bien longtemps.
C'est vrai qu'Alex, cette victoire, elle est impressionnante aussi parce que il s'est passé plein de choses autour de Verstappen ce week-end. Donc, on savait qu'il arrivait à Imola et qu'il participait en même temps à une course de e-sport, les 24 heures du Nürburgring, où il a fait des relais sur son simulateur. Il avait mis son setup là dans son motorhome. C'était assez impressionnant. On le voyait. Franchement, c'était super marrant. Et le gars, il a assuré parce que d'ailleurs, ils ont gagné, hein, Alex, avec son équipe sur les 24 heures du Nürburgring. Non, mais c'est pour montrer à quel point ce pilote-là est un extraterrestre parce qu'on parle beaucoup de sa machine. On parle beaucoup de son écurie, mais quand la voiture va moins bien, ce que disait Jean-Luc, et que là, tu as besoin du pilote, en fait, il est au-dessus de tout le monde, point barre. Là, pour moi, ce week-end, il a mis tout le monde d'accord, Verstappen.
Oh, il a mis tout le monde d'accord, et on comprend mieux pourquoi Red Bull le paye 1,8 million de primes à chaque victoire de Grand Prix, hein, parce que ça en vaut clairement l'investissement. Le fait est que quand Red Bull est en difficulté et quand Red Bull doit faire face à l'adversité, on peut compter sur un pilote comme Max Verstappen. La pole position, il va la chercher, notamment à commencer par le samedi, après un vendredi qui a été extrêmement compliqué, et en plus, dans ce même jour du samedi, quelques heures auparavant, on a eu Sergio Pérez qui s'est mis dehors avec cet RB20 qui était extrêmement complexe à mettre en bon réglage pour ce week-end de Grand Prix. Et on arrive sur ce samedi et il te sort une pole position très fantastique, absolument fantastique, qu'il va chercher, en ayant joué avec Nico Hülkenberg au niveau de l'aspiration. Et derrière, il te fait le tour qu'il faut pour justement accomplir cette pole position et aller battre les McLaren qui commencent à mettre beaucoup, 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 beaucoup de pression sur Red Bull, et ça c'est plutôt intéressant de le noter, de voir que ça fait deux grands prix de suite que McLaren et s'affiche comme une nouvelle force en présence par rapport à Red Bull. Et quand on voit notamment ce week-end de Grand Prix où tu vois que Red Bull est sous pression, n'arrive pas à tout mettre tout bout à bout, n'est plus si intouchable que ça, heureusement qu'il y a un Max Verstappen dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne pour mettre tout le monde d'accord. Et surtout, je disais faire face à l'adversité tout à l'heure, mais clairement, sur les 10-15 derniers tours, il y a peut-être très peu de pilotes sur une voiture aussi pointue, aussi sensible, qui auraient réussi à piloter sur de la glace pour accomplir derrière cette victoire en Grand Prix, alors qu'il y a un chasseur Lando Norris qui est derrière avec une McLaren qui était survoltée.
Non mais Louis, le gars, en fait, il est dingue parce que, bon, victoire à Imola, victoire aux 24 heures du Nürburgring, je crois qu'on ne se rend pas trop compte de ce que ça représente aussi, parce que être sur un simulateur avec tout ce que ça demande en termes d'intensité, d'attention, voilà, c'est un véritable effort. C'est un véritable effort. Et derrière, il savait qu'il avait un Grand Prix difficile et il allait le gagner, quoi. Parce que, franchement, s'il n'avait pas gagné cette course-là en partant en pôle, ça aurait jasé. Même au sein peut-être de sa propre écurie.
Ouais, ouais, ouais. Et puis la première chose aussi, c'est que très très rapidement, il atteint son quota. Il a un drapeau noir et blanc. S'il ressort encore une fois de la piste, il prend 5 secondes. Et ce que disait Alex, c'est qu'il subit une pression monumentale d'une McLaren avec Norris qui est en feu. Il vient de gagner son Grand Prix. Là, il a plus le droit à une sortie de piste et il en fait pas. Il en fait aucune. Il fonce finalement, tu regardes ça en te disant. Tu vois, ça aurait pas été Verstappen au volant, j'y aurais plus cru. Je me serais dit, il y a peut-être une erreur possible. Et j'entendais les commentateurs dire, Norris met la pression. J'avais envie de dire, non, on met pas la pression à Max Verstappen. Il apprend plus la pression. Et finalement, ouais, c'est ça, c'est un extraterrestre. Il a le temps de faire du simu en même temps, sachant que, comme tu dis, c'est hyper exigeant aussi le simulateur. Et c'est pas tout à fait la même chose que le réel. Il fait tout, il gagne tout et t'as son coéquipier qui est à la rue. Donc clairement, pour faire simple, ouais, c'est l'OVNI qui pense être.
Pour ajouter juste quelque chose, ouais. Nico, par rapport à cette histoire autour du sim racing, il faut savoir que Max Verstappen avec la team Redline ont participé aux 24 heures du Nürburgring dans le top split, donc la meilleure ligue, on va dire ça ainsi pour résumer, parmi toutes les ligues qui participaient justement aux 24 heures du Nürburgring. Et donc lui, il participait comme par exemple à la Ligue des Champions, on va dire ça ainsi. Ouais. Et il a quand même gagné avec la team Redline au plus haut niveau du sim racing, donc justement dans un même week-end de Grand Prix. Ça montre justement à quel point Verstappen est clinique. Et aussi, pour tout vous dire, parmi les proches de Max Verstappen, on m'avait dit il peut se buter au sim racing. Il adore ça, il ne fait que ça en dehors justement des week-ends de Grand Prix de Formule 1. Et ça se vérifie que même en week-end de Grand Prix, il va te faire la plus haute course.
On l'avait vu pendant le Covid aussi.
Oui, aussi la plus haute course de sim racing.
Ah ouais, passion pilote, hein, passion pilotage lui, Max Verstappen. Jean-Luc, on l'a vu en plus en fin de course se plaindre de ses pneus. Du coup, est-ce que l'écart avec Norris, c'est quoi? Il a été dans la gestion, Verstappen, parce qu'il sait tellement faire que, bon, après le départ, il prend rapidement le large, il essaie de taper dans les chronos, et Louis le dit, il est rapidement alerté par un drapeau noir et blanc, il peut plus faire d'erreurs, sinon il prend une pénalité. Derrière, il est un peu plus dans la gestion, et pour toi, c'est ce qui explique un peu ce retour de Norris?
Ah ben j'adore ça, tu sais, refaire les matchs ou refaire les courses, pourquoi il a gagné et pourquoi il a perdu, écoute c'est un ensemble, évidemment. Moi sincèrement j'ai compris assez tôt qu'il gérait les pneus, parce que c'était le point sensible, même si donc a priori, et on l'a vu, c'était un arrêt au stand, mais la température était beaucoup plus élevée, et tout le monde y a fait référence après, que prévu, qu'anticipé. Or tu sais que la pression des pneumatiques, elle est absolument primordiale, non seulement elle te donne l'adhérence, mais elle te donne aussi le niveau d'usure et de dégradation. Et là, combiné naturellement avec les réglages aéro, et c'est ce que disait Lando Norris aussi, il aurait mis quelques crans de moins sur son aileron avant, c'est tout un ensemble. Encore une fois, c'est le talent de mise au point du pilote avec la collaboration très active des ingénieurs et de tous les capteurs qu'on a maintenant. Bon, vous le savez comme moi, il y a des milliers de capteurs sur une monoplace, presque trop. Donc le talent des ingénieurs, c'est justement d'éliminer tous les éléments qui ne sont pas déterminants pour essayer de se focaliser sur ceux qui le sont et faire des choix de réglage. Et donc, sincèrement, vu l'écart qui ne se creusait pas tant que ça entre les hommes de tête, moi j'ai pensé que non, il était en mode gestion et c'est la clé de sa victoire, puisque ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Hein. C'est bête à dire là aussi, il y a 63 tours à faire, mais au bout, il faut être devant. Et pour 7 dixièmes, parce qu'il a géré, je pense, dès le début, c'est la raison pour laquelle aussi il n'est pas parti. Hein. L'écart ne s'est pas creusé. De mémoire, je crois qu'il n'a jamais eu plus de 8 secondes, 8 secondes et demie.
8 et demi.
Voilà. Donc tout est là. À mon avis, c'est là qu'il a gagné le Grand Prix. Il aurait voulu, ou il aurait souhaité, ou il aurait choisi de creuser 10-12 en disant « Bon, ça marche, pour le moment je suis le plus fort, je creuse et je m'en vais », il aurait probablement dégradé ses pneumatiques plus qu'il ne le fallait, et il l'aurait payé en fin de Grand Prix. Non, c'est une gestion magnifique, encore une fois. Les références en la matière, hein, à l'époque, je sais, vous allez rire, mais c'est pas grave, c'est ce qui faisait la différence différence entre Alain Prost ou Niki Lauda et d'autres, sur ce plan-là, évidemment Ayrton Senna, c'était la gestion globale, notamment des pneumatiques. Parce que j'ai coutume de dire aussi qu'il y a effectivement, aujourd'hui, il y a quelques centièmes dans les moteurs, enfin dans ce qu'on appelle les moteurs, c'est-à-dire l'ensemble propulseur. Il y a des dixièmes évidemment dans l'aéro et il y a des secondes pleines dans les pneus dès le départ du Grand Prix. Il faut savoir que c'est un capital et qu'il faut gérer ce capital au mieux et ça a toujours été comme ça.
Bah tiens, avant d'écouter Max Verstappen, Jean-Luc, et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion ce week-end, là, ça serait pas mal que dans le paddock RMC, on se fasse des petits instants techniques pour les auditeurs qui nous écoutent. Et on parle tout le temps, nous, dans le podcast, de dégradation des pneus, mais comment ça se dégrade un pneu, Jean-Luc, en course? Parce qu'on voit que des fois, les pilotes dégradent beaucoup plus vite leurs pneus quand ils sont derrière une monoplace. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène de dégradation des pneus?
Alors, bien sûr, il faudrait être ingénieur, mais enfin, je me penche sur le sujet depuis assez longtemps.
Ouais, mais t'es un peu un ingénieur quand même.
Ah, puis j'en ai utilisé quelques-uns des trois de pneus aussi. Bon, la clé, elle est très simple. En fait, c'est une histoire de fenêtre, de température de fonctionnement. Une fois que tu as dit ça, et comme je viens de l'évoquer, à quoi tient. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, là aussi, on le dit moins facilement, alors qu'il y a un manufacturier unique, hein, la température de fonctionnement en surface, sur l'ensemble de la surface, globalement, c'est 110 degrés. Alors, c'est peut-être 112, c'est peut-être 108, maintenant 114, mais c'est plus de 100 degrés. Ça veut dire que tu ne poses évidemment pas la main, normalement, sur un pneumatique, sans gants, etc. C'est bouillant. Donc, tu dois rester dans cette fenêtre, et toute la difficulté, c'est que non seulement tu dois rester dans cette fenêtre de fonctionnement sur l'ensemble de la circonférence du pneu, c'est-à-dire que tout le temps, on voit bien les plats dans les zones de freinage, etc. Bon, là après, le pilote, il a l'impression de piloter un marteau-piqueur parce que le plat qu'il a fait dans le pneu, bah ça génère des vibrations. Et puis également sur la durée et sur les quatre pneus. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours plus de virages à gauche qu'à droite ou l'inverse. Et pour arriver à cet équilibre et pour arriver à cette formule magique qui n'existe évidemment pas, parce que tu ne peux pas être, on va prendre 110 degrés, à 110 degrés sur les quatre pneus tout le temps, sur chaque tour. Mmh. C'est impossible. Donc il y a un moment, et c'est ce que disait, selon le circuit, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. De mémoire, Verstappen se plaignait du pneu avant gauche, hein, si j'ai bien entendu. Donc, c'est celui qui se dégrade souvent le plus quand ça tourne, quand les virages, en tout cas, les plus exigeants en termes de pneumatiques sont plutôt sur la droite, puisque c'est le pneu avant gauche qui morfle un peu plus. Maintenant, ça peut être l'inverse. Pourtant, là, c'est un virage qui tourne à gauche, un circuit pardon qui tourne à gauche. Donc, voilà la difficulté de gérer les pneumatiques. Une nouvelle fois, c'est un capital en fonction du choix, en fonction de la stratégie, en fonction de la manière dont le pilote les exploite, c'est très 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 technique et c'est déterminant dans le résultat.
On va l'écouter, Max Verstappen, vraiment content après cette victoire. Et c'est vrai que Jean-Luc le disait, on n'a pas l'habitude avec lui de le voir voilà, ultra expressif. Mais là, on sentait que c'était vraiment une victoire marquante.
Toute la course, j'ai dû pousser à fond pour essayer de creuser un écart. Au début, je pense que sur les pneus médiums, nous étions assez forts. Mais sur les pneus durs, c'était un peu plus difficile à gérer. Et surtout les 10-15 derniers tours, je n'avais plus aucune adhérence. Je glissais vraiment beaucoup. J'ai vu que Lando se rapprochait à nouveau, donc oui, les 10 derniers tours, c'était à fond, mais c'est très difficile quand les pneus ne fonctionnent plus et que vous devez aller à fond. Donc je ne pouvais pas me permettre de faire trop d'erreurs. Nous avons beaucoup changé sur la voiture. Bien sûr, nous n'avions pas beaucoup d'informations avant la course, mais je pense que depuis le début du week-end jusqu'à maintenant, nous pouvons être incroyablement satisfaits de la pole et de la victoire.
Voilà, Max Verstappen avec le diffuseur Canal+, Alex. Est-ce que c'est un peu une victoire en trompe-l'œil pour Red Bull? Je te pose cette question parce que, est-ce qu'en gros, s'il n'y a pas Verstappen, Red Bull ne s'impose pas ce week-end?
Je pense. Oh, je pense clairement, s'il n'y a pas Verstappen, Red Bull ne s'impose pas, parce que le travail que fait Verstappen tout au long du week-end et le travail aussi qu'il fait tout au long du week-end, surtout au niveau des setups, au niveau de trouver justement des bons compromis et aussi tenir sa monoplace sur la fin de relais qu'on a pu avoir sur les 15 derniers tours et tenir aussi sur Lando Norris. Il faut aussi voir la force et la qualité de Max Verstappen qui se montre aussi dans les moments difficiles, cliniques et chirurgicales. C'est le pilote qu'on a vu évoluer depuis 2021, depuis qu'il a remporté son premier titre à Abu Dhabi. Derrière, en 2022, il est devenu plus fort et 2023 encore plus fort, et en 2024 quand il doit faire face à des moments difficiles, parce que j'ai même envie de dire que c'est la première fois depuis 2022 qu'il est mis à mal, Max Verstappen, hein.
Ouais,
depuis Charles Leclerc Autriche, où il s'est fait battre par Charles Leclerc en Autriche 2022, on n'a plus réellement vu Max Verstappen devoir faire face, devoir faire face à, oui exactement, être en difficulté, être sous pression. Donc c'est là on voit aussi l'évolution de Max Verstappen, de ne pas lâcher prise, de comme on avait pu un peu le voir avant justement 2021, ou sinon même en 2021 où il oubliait parfois de freiner, mais sur certains pilotes. Mais sinon, là, aujourd'hui, on voit un Verstappen qui est encore plus clinique, encore plus chirurgical, plus fort, plus percutant, surtout dans le bon sens du terme, et ce qui est forcément extrêmement intéressant pour Red Bull, qui prouve encore une fois, d'ailleurs, Max Verstappen à Christian Horner, que Red Bull a besoin de Max Verstappen, et non pas que Max Verstappen a besoin de Red Bull.
Ouais, ça, c'est clair. 59e victoire, hein, Verstappen en carrière, ce week-end en Italie. Louis, du coup, on va basculer sur ouais. Lando Norris, on reviendra sur Sergio Perez un petit peu plus tard, mais voilà, Lando Norris qui confirme après sa victoire à Miami, qui confirme déjà que McLaren va bien, parce que Piastri a également été très bon ce week-end, et qui surtout montre que McLaren maintenant postule à une victoire quasiment à toutes les courses, et ça en termes de perf, c'est assez énorme quand même.
Ouais, c'est ça, pour faire la transition avec le sujet Red Bull. Moi, c'est aussi ça qui me surprend actuellement, c'est que j'ai trouvé que la concurrence est revenue assez vite, enfin plus vite que je l'imaginais, puisqu'il y a encore quelques courses, on avait deux Red Bull 10 secondes devant, et en quelques week-ends, alors évidemment, c'est des mois de travail hein, derrière, mais en quelques week-ends, je trouve qu'il y a... Il y a un rapproché un peu groupé en plus qui est assez impressionnant. Et je m'attendais il y a encore peu de temps à Ferrari à la place de McLaren. Et finalement, c'est McLaren qui est la première force qui met pression sur Red Bull avec pour le moment Norris en figure de proue. Mais Piastri est là aussi. Et ils ont deux voitures qui mettent la pression à Max. Et à l'inverse, Max, son wingman, Sergio Perez, n'est pas trop là. Et donc, je pense que ça relance, on en a parlé en début sur d'autres podcast, le fait qu'on s'ennuyait potentiellement un peu sur les courses, la course au championnat global ou ces choses-là, là ça relance tout parce que maintenant on croit à fond en les papayas, quoi. Enfin, je veux dire, elles ont l'air solides, elles ont l'air équilibrées. Hier, Norris, Jean-Luc le disait tout à l'heure, il voulait peut-être un petit peu baisser l'aileron ou quoi, mais ça veut dire que quand tu peux te permettre de baisser un aileron, c'est que tu dégrades pas. Donc si tu dégrades pas, c'est que ta voiture est super bien équilibrée. Donc vraiment, ils sont là, quoi. Ils sont là, ils sont très proches, ils sont déjà sûrement devant Perez aujourd'hui, et donc maintenant ils sont peut-être qu'à une petite évolution d'aller jouer la victoire face à Verstappen. Alors pour le championnat 2024, j'y crois pas, je pense qu'ils partent un peu tard et que de toute façon Verstappen est quand même très fort. Après, ce sont des saisons à rallonge maintenant, 24 Grands Prix, c'est dans très longtemps, il peut se passer des choses.
C'est exactement là où j'en parlais hier pendant le Grand Prix, c'est-à-dire que faut quand même se rendre compte que là il reste 18 Grands Prix, 18 Grands Prix.
Ouais, donc ça fait
quasiment une saison entière de saison 2004 de Formule 1.
Ouais,
quoi.
C'est quasiment une
saison entière de Formule 1 qui reste. Donc pour McLaren, nos constructeurs, on verra bien sûr, mais pour Ferrari justement qui s'améliore, il y a des choses qui sont encore très jouables pour tout le monde.
Deux éléments si vous voulez bien pour en rajouter, mais vous l'avez vu comme moi, au championnat constructeur, puisqu'on parlait d'équipe là il y a un instant, McLaren, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'il marque plus de points que les autres, 30 points. Donc Red Bull n'en marque que 29, et on sait bien grâce à qui, et Ferrari n'en marque que 25. Donc ça veut dire très clairement que oui, c'est en train de basculer, et que là, Red Bull va avoir besoin de ces deux pilotes, comme on l'a toujours dit, comme Horner l'a toujours dit. Donc peut-être que Perez, il est en train déjà de jouer son baquet, on va attendre, parce que là, il s'est raté comme il sait le faire, Perez, parce que la différence, la différence entre les grands champions et les bons pilotes, ou très bons pilotes même, c'est ça, c'est qu'il y en a qui se ratent jamais, et je crois que c'est Louis qui l'évoquait tout à l'heure, ou Alex, désolé, je ne sais plus lequel des deux évoquait. Ok, ça, mais le fait de ne pas commettre d'erreur, ça, c'est la marque des très grands champions. Très grands. Et puis, un petit mot, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais je veux absolument le placer, Nico.
Vas-y.
L'évolution du week-end. Tous les pilotes, vous l'avez vu, entendu comme moi, sont ravis de pouvoir travailler sur une voiture. Parce qu'avec leur format à la con, j'y vais carrément avec la Sprint 13. Mais oui, mais sérieusement, quand tu apportes une évolution et que tu dois travailler, faire nous venons de l'évoquer, des relais courts, longs, moyens, avec des charges en carburant différentes, de manière à savoir comment tes pneus travaillent, pour anticiper le Grand Prix. Alors on met un ludion, là, on met un jet de pétard au milieu, on appelle ça sprint race, et on dit rigolez bien les gars, c'est génial, c'est formidable, bah, faites une course de 5 tours également le vendredi, allez-y. Non mais voilà, bah oui, parce qu'un pilote, la Formule 1, c'est très technique, très scientifique, ça se travaille, c'est pas n'importe quoi. Et puis j'allais dire aussi le plus simple, hein, c'est de remettre, et ça je vous le dirai à chaque fois, remettre une séance de qualif le vendredi. Avant le week-end de course, c'était magnifique. Il y avait séance d'essai libre le vendredi matin, les qualifs du vendredi après-midi. Et on avait une première grille. Et là, il y avait de quoi parler, je peux vous dire. Et on attendait le samedi pour savoir si oui ou non, le samedi, les pilotes allaient ou pas améliorer avec la séance d'essai libre, après la séance d'essai libre du samedi. C'était génial. Bon, bref, c'est pas moi qui décide, malheureusement.
C'est Stéphane.
On va écouter, tiens, Lando Norris, qui est un peu déçu de ne pas être allé chercher la victoire parce que il pensait qu'il avait le potentiel.
Ça me fait mal de le dire, mais un ou deux tours de plus et je pense que je l'aurais eu, c'est dur. Dommage, j'ai combattu fort jusqu'au dernier tour, mais j'ai juste perdu un peu trop face à Max au début. Il était bien meilleur lors du premier relais, évidemment dans le deuxième relais nous étions plus forts. Mais oui, c'était une première moitié difficile et une bien meilleure seconde moitié. Un ou deux tours de plus aurait été magnifique, mais pas aujourd'hui. Je pense que nous sommes à un point où nous pouvons dire avec satisfaction que nous pouvons concurrencer Ferrari et Red Bull. Nous nous battons maintenant pour la première ou la deuxième place. Donc oui, c'est toujours surprenant de dire que c'est frustrant de ne pas gagner. Mais après le week-end dernier et les améliorations que nous avons faites, c'est ce à quoi nous devons commencer à nous attendre.
Ils sont forts, Alex, les mots de Lando, là. Parce que je pense que c'est la première fois qu'en on, on entend quelqu'un de chez McLaren dire « ça y est, on peut le dire, on concurrence Red Bull et on concurrence Ferrari ». Alors surtout Red Bull, d'ailleurs, pour la victoire. Mais on est là et on joue la victoire désormais.
Non, mais ça fait plaisir parce que le retour de McLaren aux avant-postes, ça fait un bien fou à la Formule 1. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que après 60 tours de Grand Prix, c'est Fred Vasseur qui en parlait, le patron de Ferrari, il y avait, si je me trompe pas, 3 équipes en 6 secondes d'écart. En 6 secondes. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça en Formule 1, autant d'équipes justement qui se bataillaient pour un même but, à savoir la victoire. Et ça fait et ce qui veut dire derrière, c'est qu'il y a moins d'un dixième de seconde d'écart entre les 3 voitures justement qu'on peut le voir avec Verstappen, avec Norris et donc bien sûr avec Charles Leclerc. Le travail de Ferrari qu'on peut voir avant, c'est un travail qui est plutôt intéressant parce que c'est une question d'optimisation justement de la SF24 2.0 par rapport aux améliorations. Mais quand on regarde juste McLaren, ils font quelque chose qui pour moi était inattendu. Je pensais que justement, c'est pas McLaren qui allait revenir aux avant-postes avec Red Bull et Ferrari, mais plutôt Mercedes. Ouais. McLaren est en train de réaliser ce que Mercedes devait faire. Ce qui est quand même assez. Ce qui peut se poser ouais, quelques leur questions. Quelque, avec leur même moteur. Une écurie cliente de Mercedes qui bat Mercedes à la régulière et qui a quand même. Qui a gagné d'ailleurs un Grand Prix cette saison et qui peut désormais concurrencer Red Bull à la longue. Ça fait un bien fou à la Formule 1, c'est extrêmement bien et surtout, c'est quelque chose qui est assez inattendu parce qu'on pensait avoir une saison 2024, on va dire, avec Red Bull intouchable. D'une, Red Bull n'est plus ainsi intouchable. Que ça. Ferrari fait un travail absolument fantastique et a besoin d'optimiser sa SF24 2.0 avec beaucoup d'améliorations. Et McLaren a fait un travail, j'ai presque envie de dire, insoupçonné en n'ayant pas les mêmes ressources que Red Bull et Ferrari pour se battre aux avant-postes. C'est absolument fantastique cette 2024.
Et bah vous savez quoi, je l'avais trouvé un peu moyen ce Grand Prix. Et bah quand je vous écoute, ça y est. En fait, elle a été trop bien la course.
Ça fait plaisir.
Il y a beaucoup d'enseignements.
En fait, elle était trop bien cette course.
Non, mais parce que. Le replay ce soir.
Ouais. Je vais me faire le replay. Non, mais parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde la course à vitesse réelle, on est peut-être moins dans l'analyse et à froid. C'est aussi la magie de ce podcast. Et quand on peut débriefer tout ça, on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'enseignements à tirer. Jean-Luc, tiens, en parlant d'enseignements à tirer, parlons des Ferrari avec leur SF24 2.0, là, comme dit Alex. Charles Leclerc qui termine à quasiment un peu moins de 8 secondes de Verstappen. Carlos Sainz, 5e de la course, à un peu plus de 22 secondes. Est-ce que les évolutions ont payé pour toi, Jean-Luc? Moi, je m'attendais un petit peu mieux, franchement. Quand on voit l'évolution de la McLaren, je pensais vraiment que Ferrari allait vraiment passer un cap ce week-end-là. Ça n'a pas forcément été le cas en course.
Bah écoute, ils se sont encore rapprochés. On l'a vu lors des 2 séances d'essais libres, dominées par Charles Leclerc, là aussi. Donc effectivement, posée par terre, j'allais dire, la voiture avec toutes les évolutions, elle fonctionnait. très bien. Alors, tout dépend comment les autres pilotes travaillent, et c'est ce qu'ils disent à chaque fois. On ne connaît pas la charge en carburant, on ne connaît pas la manière de procéder petit à petit à l'approche du réglage idéal, ou en tout cas le meilleur pour le Grand Prix. Parce que c'est ça qui est, pour moi aussi, extrêmement intéressant en Formule 1, c'est la dramaturgie. C'est-à-dire la montée en puissance sur tout le week-end pour arriver vraiment au pinacle qui est le Grand Prix. Alors, ouais. Je ne vais pas redire ce que je viens de dire il y a quelques minutes, mais de cette manière-là, les pilotes travaillent, les équipes travaillent pour arriver à un résultat formidable le jour de la course, parce que c'est là qu'on prend les points. Donc c'est bête à dire, mais c'est comme ça qu'il faut le rappeler. Donc les Ferrari étaient bien, étaient très bien même, étaient très proches. Maintenant, effectivement, il en manquait un tout petit peu, et on l'a vu là aussi, et Charles a fait tout ce qu'il a pu. Bon, formidable quand même, 3 équipes en 7 secondes à l'arrivée, hein, 7 secondes 9 pour être précis, c'est vraiment rien du tout. Et puis, ce qu'il faut rajouter, c'est que vous parliez du retour de McLaren aux avant-postes, et ça c'est fantastique, mais le retour de Ferrari, je peux vous garantir, quand Ferrari va se mettre à gagner à régulière des Grands Prix, et là vous allez voir un peu le déferlement insensé dans le monde entier, parce que Ferrari c'est l'équipe mythique, donc c'est ça qu'on attend, et on y est là, on y est. C'est une question, peut-être à Monaco ou ailleurs, je ne sais où, mais ça va se produire.
Ouais. Louis, Charles Leclerc, qui est un des pilotes, bon, derrière Verstappen bien évidemment, mais même devant Verstappen, c'est le pilote le plus régulier du début de saison, parce qu'il a terminé 7 fois dans le top 4, et ça, mine de rien, c'est pas anecdotique, hein, ça montre aussi la fiabilité de Ferrari et de Charles Leclerc depuis le début de saison.
Ferrari a entamé sa métamorphose déjà il y a quelques temps, l'arrivée de Fred Vasseur, et depuis on a l'impression que s'est mis en place un vrai cercle vertueux. Et ce que vient de dire Jean-Luc, c'est que là on est un peu tous excités, parce qu'on sent bien qu'on est à l'aube du grand comeback qu'on attend tous. Enfin tous, j'en sais rien, je parle pour moi peut-être.
Mais je crois tous les fans de sport mécanique, ils attendent.
Mais
quand
oui,
même.
Oui, oui. Et donc,
j'attends le retour d'Alpine aussi. Hein.
Oui, bah moi évidemment.
Oui,
lui,
on va
si
attendre
veux,
un peu plus longtemps là, malheureusement.
Il faut garder patience, beaucoup de patience. Et donc pour Ferrari, ouais, on est vraiment juste avant, je pense, des grands moments pour la Scuderia. Tout se met en place. Si aujourd'hui il fallait voir, mettre une petite réserve, un petit point négatif, ils ont fait des mauvais pit stops hier, ce qui n'était plus le cas chez eux. Ça serait bien que ça ne revienne pas à une habitude pour eux, parce qu'ils n'ont pas de seconde à perdre encore. Hein. Ils sont quand même toujours derrière. Mais
c'est un
vrai
peu dur. 2 secondes 8 hein, pour Leclerc, j'ai noté. 2 secondes 6 pour Verstappen. C'est un peu dur.
Mais c'est vrai que.
Et 2 secondes 7 pour Sainz, pardon.
Ils ont tellement progressé à tous les niveaux que c'est la seule chose en ce moment que je peux leur reprocher encore, tu vois, c'est un pit stop, hein, c'est-à-dire que le prochain, je trouve, il sera en 2 secondes 2 et ça sera oublié.
Et puis c'est un dixième.
Mais sur la course qui arrive, surtout moi, ce qui va m'intéresser, on va dire un peu plus loin que de la F1, c'est le côté la malédiction Leclerc et Monaco. J'ai envie de voir ça avec une vraie voiture qui peut gagner la course.
Non, mais il va gagner, c'est bon.
Arrête de dire ça, là, tu vas gagner.
Croisons les doigts.
Et bah vous savez quoi, on va l'écouter Charles Leclerc, parce qu'il en a parlé un petit peu de ce Grand Prix de Monaco qui est si spécial pour lui.
Bien sûr, je suis très content quand je gagne, et aujourd'hui nous n'y sommes pas tout à fait parvenus. Nous étions très rapides au début de la course avec le pneu dur. J'ai commencé à pousser pour essayer de mettre la pression sur Lando, mais plus tard, ils étaient incroyablement rapides. Mais dans l'ensemble, je pense que le rythme de course aujourd'hui était assez fort. Nous avons manqué de quelque chose hier en qualification, surtout dans la première ligne droite, ce que nous examinerons. Mais sur le reste du tour, nous étions rapides, donc ça semble bon pour le reste de la saison. Mais oui, c'était incroyable quand même d'être sur le podium et avec tous les tifosi ici. Monaco va être très spécial, bien sûr, aussi spécial qu'ici à Imola. Évidemment, il y a beaucoup de rouge, et oui, c'est toujours incroyable de voir ça.
On va se projeter sur Monaco tout à l'heure, hein, Charles Leclerc, après la course, qui est lui aussi plutôt ultra optimiste, hein, Alex, sur les développements mis en place par Ferrari, sur la perte de Ferrari. Il manque encore à chaque fois un petit quelque chose, mais tu sens quand même que la bascule, elle est vraiment pas loin, et ça va finir par basculer, hein.
Ça rebondit clairement sur ce que disait Jean-Luc, parce que c'est clairement ça, c'est qu'on attend juste que Ferrari puisse se battre à la régulière comme on avait pu avoir début 2022 pour aller chercher des batailles pour la victoire, notamment face à Red Bull, mais en plus avec McLaren. Mais un point aussi est important de noter, c'est que là, au-delà même de la bataille en piste et les écuries, la convergence de, qui fait qu'aujourd'hui, on a des batailles très rapprochées entre McLaren, Ferrari et Red Bull, c'est la bataille en interne dans les usines de chacune des écuries où la course au développement va être absolument fantastique. On se souvient, je crois que c'était Toto Wolff qui parlait du fait que quand il y avait eu la bataille entre Mercedes et Ferrari en 2017-2019, il y avait eu quelques burn-out en interne du côté de chez Mercedes. Là, maintenant, ils vont devoir se battre entre trois écuries, peut-être, imaginons peut-être le retour de Mercedes dans quelques courses, bien sûr, mais la bataille en interne où il va falloir accélérer la course au développement le plus possible, parce qu'il peut être, pour un pilote, justement, imaginons Carlos Sainz, c'est facile de passer de la deuxième première place à une cinquième, sixième place au vu des trois écuries qu'il y a qui sont en train de se battre. Donc c'est ça aussi où c'est très excitant pour la suite de cette saison, c'est comment les écuries vont pouvoir se mettre en place, se mettre dans les bonnes dispositions pour faire les bons choix au moment, être clinique et chirurgical.
Mais quand je vous entends là, Jean-Luc, quand je vous entends parler un peu de cette lutte à trois avec Red Bull, avec McLaren, avec Ferrari, tout ce qui peut se passer derrière avec un potentiel retour d'une écurie comme Mercedes, même s'ils sont encore loin, hein, la W15 là, 35 secondes Hamilton et 47 secondes Russell. Mais
ils se sont approchés, semblerait.
Ouais, est-ce que, en fait, nous on a l'impression que cette saison elle est un peu tronquée par l'extrême domination de Verstappen, mais comme le disait Alex, Jean-Luc, quand on voit cette bagarre là entre ces trois écuries mythiques là, c'est peut-être une des saisons les plus excitante de la F1 hein, à laquelle on va avoir droit.
Mais complètement, mais tu sais, les bagarres à trois, c'est extrêmement rare hein, à ce niveau de performance. Et puis je regardais, parce qu'on dit, oui, les Ferrari, ils n'y étaient pas. Écoute, dans la Q1, il lui a manqué un dixième et demi à Leclerc pour faire le temps de Verstappen. Je compare à Verstappen. Dans la Q2, c'était à peine un dixième 4. Et dans la Q3, c'est deux dixièmes. Mais tu te rends compte de quoi on parle ? C'est-à-dire qu'il y a encore quelques saisons, être à deux dixièmes, mais tu étais forcément deuxième en qualif. Et là non, on arrive à mettre deux autres pilotes au milieu. Non, le niveau de compétitivité de la Formule 1, là, cette saison, est absolument exceptionnel. Donc, et j'allais dire, même Alpine, non mais sincèrement, l'écart par rapport au premier, il est réduit comme jamais. Donc effectivement, ça tient à tellement peu de choses. Et comme les pilotes le disent à chaque fois aussi, il suffit d'un élément qui soit pas au top, qui soit pas maximal, et ça y est, la performance est totalement affectée, parce que le resserrement des performances est absolument fantastique. Très souvent, on a 8, 9, 10, 11 pilotes en une seconde, ce qui fait un pilote par dixième de seconde quand même. On dirait de la moto, que je peux pas dire mieux, parce que vous intéressez certainement, comme moi aussi, absolument au MotoGP, voir les grilles de départ. C'est exceptionnel. Eh bien, en Formule 1, c'est pareil maintenant. On a des écarts. Alors, la différence, c'est qu'évidemment, on dépasse moins facilement en Formule 1. C'est une évidence qu'on ne le fait à moto. Et que la part du pilote à moto, je le répète tout le temps, pour moi, reste supérieure dans le résultat global à ce qu'elle est en Formule 1. C'est-à-dire, le pilote a plus d'importance à moto qu'il n'en a en Formule 1. Mais quand même, là c'est absolument... C'est au pilote, c'est sur lui que repose la responsabilité totale du rendement final, que soit sur un tour ou sur un Grand Prix, on vient d'en parler abondamment avec Max Verstappen, c'est quand même, enfin, on ne peut que s'émerveiller. Et puis encore une fois, cette bataille à trois, ça va être fantastique. Hein. Je crois qu'on va s'en régaler toute la saison. Et puis pourquoi pas à quatre, on peut autoriser les autres à progresser. Mais déjà trois, ça va nous réserver des sentiments et des scènes absolument fantastiques.
Oh, vous m'avez reboosté là, j'attaquais ce podcast un peu fatigué, là, pas bien, la tête dans les chaussettes. Là, je suis reparti plein fer. Louis, Mercedes, qui s'affirme désormais maintenant, hein, comme on le dit depuis plusieurs semaines, mais la quatrième force du plateau, derrière McLaren, derrière Red Bull, derrière Ferrari, Hamilton 6e, Russell 7e, je le disais, hein, plus de 30 secondes de Verstappen, quasiment 50 secondes pour George Russell. Ça stagne un peu pour Mercedes. Autant il y a des équipes qui ont vraiment évolué, ils ont peut-être un peu progressé, mais pas assez par rapport à la concurrence.
Oui, de toute façon, c'est que s'ils ont progressé, on ne le voit pas vraiment puisque les autres progressent un peu plus vite. Et derrière ça, j'ai lu que Toto Wolff disait qu'ils espéraient enfin être partis dans la bonne direction cette fois. C'est bien la réglementation à 2 ans et demi. donc voilà, ils en sont à leur, je ne sais pas combien tième volte-face sur, sur ça. Là, ils ont l'air d'être satisfaits de leur progrès, mais ouais, le problème, c'est que ils c'est pas les seuls à progresser.
Et voilà.
Et que je pense qu'il n'y a qu'une seule écurie qui progresse moins vite. Je reviens ce jour-là. Et Alpine. Et voilà. Donc bon, voilà. Hamilton, quatrième force du plateau Mercedes. C'est ce qu'était Alpine, Renault il y a 2-3 ans, quand ils étaient premiers. C'est la dégringolade, quoi. C'est, voilà. Vivement que Lewis rejoigne les rouges. Et puis, je sais pas, peut-être Bottas, le petit retour de Bottas pendant la série. Ça me ferait plaisir, moi, personnellement.
Et au championnat, ils ont quasiment moins de la moitié des points de McLaren. Hein. 154 pour McLaren, 79 pour Mercedes.
Pour leurs clients, c'est dingue, c'est dingue.
Ah ouais, c'est dingue. Bah oui.
Je rajouterais une phrase de Toto Wolff qui a dit « Il n'est pas possible de le voir en termes de résultats, mais nous avons fait un petit pas en avant ce week-end. »
Oui. Et les autres en ont fait trois.
Je crois que je suis millionnaire, mais mon compte en banque ne le dit pas. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu ça. Mais ce qui est plutôt inquiétant avec Mercedes, c'est aussi que le destin de Mercedes est plutôt aussi lié à celui d'Aston Martin, ou plutôt l'inverse. Parce que si on regarde Aston Martin, avec les améliorations qu'ils ont apportées, il y a un manque de corrélation de ce qu'on comprend entre ce qui se passe en piste et ce qui a été fait en soufflerie. Mais la soufflerie, elle vient d'où ? Elle vient de chez Mercedes. Ça traduit justement cette problématique d'Aston Martin sur les problèmes de Mercedes depuis 2022, à créer justement une monoplace qui fonctionne avec la corrélation de ce qui a pu être pensé et créé en soufflerie. Et là encore une fois, ça continue avec les problématiques du côté de chez Mercedes. Ils disent qu'ils se sont améliorés. Oui, bah super, très bien, mais c'est pas assez vite.
Moins que les autres.
Non. Je crois qu'il y a 28 secondes d'écart entre la troisième force du coup et Mercedes. C'est encore trop loin. C'est un pas qui est immense, l'écart qu'il y a effectivement entre Mercedes et Ferrari, Red Bull et McLaren.
Ouais. Revenons un peu, Jean-Luc, sur Perez. On parlait de son baquet là, qui était de plus en plus en sursis parce que Christian Horner, parce que Red Bull va avoir besoin de lui et qu'il est encore une nouvelle fois passé au travers. Alors en cette course, c'est peut-être la deuxième fois qu'il passe vraiment au travers, Perez, mais ça commence à faire un peu beaucoup, surtout quand tu vois un Verstappen qui arrive à bonifier cette monoplace qui est un petit peu en difficulté. Perez, il a été en échec quasiment tout au long de son week-end.
Bah oui, on sait qu'alors lui il commet des erreurs, malheureusement il en a commis une encore en essai quand il est sorti, il a abîmé un peu la voiture, là maintenant il vient de perdre la deuxième position au championnat pilote, hein, ce qui va se traduire évidemment par le fait que quand on a une équipe soudée et performante, et c'est le cas de McLaren, et c'est le cas évidemment du côté des Papaya, hein, du côté des autres équipes, oui, de Ferrari, voilà, chercher évidemment de Ferrari ou Sainz évidemment n'est pas loin, même si sur ce Grand Prix il a été un tout petit peu en dedans, mais c'est rien du tout. On peut pas tabler sur un seul pilote. Il faut forcément que Perez soit là. Alors de là à le condamner et le remplacer, on sait que les calculs sont compliqués. Puis c'est fou quoi qu'on parle maintenant dès le 7e Grand Prix sur une saison à 24 Grand Prix quelle va être l'équipe. Mais bon, c'est comme ça. Ça va de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Ceci dit, Horner, et il a raison, a plutôt dit moi j'ai le temps. Ben il a le temps. Il a un pilote qui reste quand même performant, qui est capable d'assurer dans de bonnes circonstances la deuxième position. Alors ça va être de plus en plus dur, hein, pour tout ce qu'on vient de dire depuis le début de ce podcast, parce que les autres ont progressé, parce que maintenant bah, il faut sortir des tours parfaits, des week-ends parfaits, ce qui n'est pas toujours le cas de Perez. Et puis là on l'a vu, bah, d'habitude il est capable de remonter rapidement, là sur un tracé où il est difficile de dépasser, il n'y a même quasiment qu'une seule opportunité, bah, il est un peu à la ramasse pépère, et il a fait ce qu'il a pu, il s'est remis un peu dans le jeu, mais bon, on peut considérer que quand on pilote une Red Bull, bah, terminer 8e à quand même 54 secondes du leader et à 7 secondes de Russell et à une vingtaine de secondes d'Hamilton, bah, c'est pas bien. Ce qu'on attendait de lui, on va dire, c'est d'être derrière Sainz, d'être 6e.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en plus de ça, il a accusé le circuit. Hein. Il a dit quand même, mon week-end était terminé après la séance de qualification parce que sur ce Grand Prix, on peut pas dépasser.
Bah, ah, bah oui, petit conseil, faut y aller, mon gars.
Qualifie-toi en Q3. Ouais,
évite de finir dans le mur. On reste 3 sur la chicane, c'est clair.
Louis, le petit point Alpine, parce que bon, bah, on était plutôt. J'allais dire rassuré, le mot est fort.
Thérapie.
Ouais, voilà. En tout cas, sur les deux derniers Grands Prix, on voyait du mieux dans les perfs. C'est vrai que même les propos de Bruno Famin, le patron de l'écurie, qui disait que Alpine progressait, les pilotes aussi ressentaient ça. Là, c'était très compliqué à Imola. Hein. Je rappelle les classements, mais Ocon 14e, Gasly 16e, Pierre qui se plaint un petit peu du traitement de faveur envers Esteban.
Dès les essais.
Ouais. Bon, il se passe beaucoup de choses quand même là en interne. Hein. Ça commence à bouillir. Hein.
Je pense, ouais, je pense. Puis tu sais, ce qu'on se disait en début de saison, ouais, c'est quand même cool que, bien que rien n'aille, ils soient vachement positifs, qu'ils tirent tous dans le même sens, mais c'est que ça use. Ça use quand ah derrière bah oui. ta voiture, mmh. est... bah c'est, tu vois, c'est la méthode Coué, c'est bien, mais c'est qu'il y a un moment, si ta voiture, elle avance pas plus vite après, il y a un moment, bah, ça commence à se crisper de tous les côtés, tu commences à t'inquiéter de plus en plus. J'imagine que là-haut, la pression est de plus en plus forte, et on retourne dans ce cercle vicieux où, malheureusement, peut-être que dans 3 mois, on va encore nous mettre un nouveau team principal et tout et faire table rase, parce que c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc là, 14 et 16, Pierre il fait une course où il change de pneu très rapidement, ça marche pas, il retourne au stand, enfin bref, ouais, c'est ouais, nous on espérait quelque chose, on a arraché un point avec Ocon, mais bon, on l'avait dit, hein, on n'était pas dupes, il y avait eu tellement d'aléas dans la course que ça avait permis à Esteban de remonter et d'arracher un point comme ça, et puis c'était comme une victoire. Donc bon, bah là, ça, on est sur quelque chose d'un peu plus standard. Malheureusement, je pense, pour la saison à venir, va falloir s'y habituer, quoi. C'est une 11e place. Faudra savoir dire bonne course d'Alpine pour une 11e place, quoi. C'est triste.
Ouais, ouais, Jean-Luc, le week-end d'Alpine, là, pff, difficile, hein. Difficile encore. Puis difficile surtout là sur ce week-end-là d'entendre les pilotes parler de ce qui se passe dans l'équipe. Voilà, ouais, c'est plus ça, ça en fait. C'est que comme on le disait depuis plusieurs semaines, ils sont ultra corporate. Ils ont toujours poussé dans le même sens en disant qu'il fallait que l'équipe progresse. Bref, ils ont toujours joué le jeu. Si eux commencent un petit peu à lâcher, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein.
Bah écoutez, j'avais parlé d'un début de semblant d'amorce d'amélioration, mais comme on vient de l'évoquer en tête du paquet, bah c'est pareil derrière. Même si tu t'améliores, on va dire de 5%, mais que tous les autres progressent de 10, bah tu recules. Et on dirait que c'est un petit peu ce qui se passe pour Alpine. Alors, ça me fait toujours de la peine parce que je connais encore pas mal de gens, notamment du côté des moteurs, hein, à Viry-Châtillon, on va dire chez Renault, parce qu'on a la rebadgée Alpine, bah c'est une usine traditionnelle Renault. Ces gens-là ne sont surtout pas devenus mauvais. Voilà. C'est ça qui est dur à entendre. D'ailleurs, on ne le dit pas. Hein. On dit que... après, on se renvoie la balle aussi entre le châssis maintenant et le moteur. Ça a commencé en fin de saison dernière, hein, si vous vous rappelez. Donc là, je crois que l'état d'esprit que vous évoquez, bah oui, il est en train de se fissurer. Alors, la langue de bois, et pour ça que ce que déclarent les pilotes, les pauvres, parce qu'ils sont cornaqués, vous le savez, ils ont même des clauses dans le contrat qui leur interdit de critiquer l'équipe. Donc, mais là, sûr. On sent bien que ça se fissure. Mmh. Et puis, on évoquait le marché des transferts. Bah, ils sont tous sur le marché. S'ils trouvent mieux, ils partent tous, même chez As, hein, j'ai l'impression. Donc, si vous voulez, le drame... Non, mais le drame, il est là. Parce qu'en plus, As, globalement, assure des meilleurs résultats. Ben oui, il faut quand même le dire.
Hein. Oui. Hülkenberg 11e
et Magnussen 12e, je suis désolé, mais bon, ils ont un moteur Ferrari. Et peut-être l'un des problèmes, je l'ai déjà évoqué plein de fois, qui se pose à Renault, je suis désolé, je reviens à Renault, c'est qu'il n'y a pas d'autre équipe. Vous l'évoquiez à juste titre avec Mercedes. Mercedes peut dire on est mauvais puisque McLaren fait mieux avec notre moteur. Bah, s'il y avait une autre équipe équipée d'un moteur Renault, on verrait bien ce qu'elle fait. Et là, on n'en a pas. Et là aussi, c'est une suite d'erreurs qui ont été commises. On va pas par les directions successives de ne pas anticiper le fait qu'il fallait au moins une autre équipe. Et le fait que les équipes renoncent à choisir un moteur Alpine, bah, c'est grave, quoi. Le problème, il est là. Donc moi je suis très inquiet parce que je sais pas combien de temps ça va amuser Luca Di Meo, qui est un homme assez impulsif, on l'a dit, qui avait fixé lui ou le directeur général de l'époque, dont j'ai complètement oublié le nom, l'objectif des en 100 Grand Prix on sera devant, mais plus Laurent crétin aussi. Comme déclaration tu peux pas imaginer. Bah moi je vais dire bah oui, bah je vais m'appeler Sauber là, et je vais dire comme Audi, en 10 Grand Prix on sera leader, mais c'est complètement stupide. Commencez à bosser les gars, puis on verra après.
Ouais. Tiens, bon, on va écouter Pierre Gasly. Bah, j'ai envie de dire une nouvelle fois abattu, parce que le pauvre Pierre, à chaque fois qu'on le diffuse dans le paddock RMC, ouais, il est pas au top.
Ce qui nous a amené à faire ce choix, c'est qu'il fallait essayer de faire quelque chose de différent. Après, je pense que ça ne s'est clairement pas passé comme on s'y attendait. Je dois prendre 8 ou 9 drapeaux bleus qui nous font perdre à chaque fois 2 secondes. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on revoie, parce que je pense que c'est vrai que là on s'est raté malheureusement cet après-midi. Et je pense qu'on était dans tous les cas, ça allait être compliqué pour faire une très bonne course. Mais je me retrouve en début de course juste derrière Ricciardo et pas très loin d'Hülkenberg. Et on finit très très loin. Donc je pense qu'il va falloir clairement revoir ce qu'on aurait pu faire mieux.
Ouais, Pierre Gasly avec Canal+, il parlait hein, au début de son intervention sur le choix des pneus. T'en parlais, Louis, sur, ouais. sur ses choix de pneus. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que tu sens que ça. Même dans la, dans la stratégie, voilà, il se trompe un petit peu. Et en plus de ça, quand rien ne voit, t'as les circonstances et les faits de course qui sont complètement
ouais,
contre lui.
Hein, son argument des drapeaux bleus, enfin, je veux dire, tout le monde, oui, après la dixième place, a des drapeaux bleus et voilà. doit les gérer. Enfin, je veux dire, Pierre, je l'adore. J'ai même tendance, peut-être, à la base, à le préférer à Esteban, même si j'adore les deux. Je suis chauvin, point barre. Mais c'est vrai que là, sur le coup, sa communication ce week-end, je la trouve un peu caliméro.
Ils sont perdus,
Et, mais voilà, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est là, on arrive sur, tu sais, sur ce moment. Voilà, on s'est serré les coudes, les pieds dans la mouise et tout. Et là, on commence à en avoir un peu marre. Et,
je veux voir l'image. Serrer les coudes, les pieds dans la mouise.
Non, c'est que je partais pas sur ça. Et après,
reste
poli, Louis. Et du coup, bah, j'ai dit n'importe quoi. un Oscar, mais on adore. Mais oui, non, moi, Pierre, là-dessus, je me dis attention à la com, parce que mine de rien, quand je dis nous, c'est supporters, quand on n'a rien à attendre de la course, bah, au moins, si dans la com, on a un petit peu d'espoir, ça fait du bien, quoi, parce qu'il reste 18 courses à manger. Quoi.
Jean-Luc en parlait de ces rumeurs de transfert qu'il y a. Faut que tu nous parles de cette rumeur Esteban Ocon chez Haas, parce que Jean-Luc le disait un peu comme ça, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui sortent l'info que Esteban Ocon se rapproche de Haas pour l'année prochaine.
Oui, ça a été quelque peu surprenant, puisque d'ailleurs ce même média avait dit une autre info quelques heures auparavant. Mais en même temps, c'est pas étonnant, puisque tout va très très vite. Je crois que c'est Tony Hinkle qui le disait il y a quelques jours dans un autre podcast par rapport à l'autre épisode, comme quoi tout allait très vite via un agent de pilote de F1. Là, cette fois-ci, c'est vrai que Esteban Ocon, selon le média Motorsports Global, qui disait justement que Esteban Ocon pourrait aller l'année prochaine du côté de chez Haas, et que Haas serait très chaud à l'idée d'avoir Esteban Ocon. Personnellement, j'ai du mal à imaginer Esteban Ocon se dire Haas, c'est une belle possibilité, c'est une belle vision, quitter un constructeur automobile pour aller dans une écurie comme Haas, c'est quelque peu étonnant. Mais l'autre option, surtout pour Esteban Ocon, c'est Audi, mais Audi attend justement avant la fin du mois, semblerait-il, la réponse de Carlos Sainz, qui traîne des pieds, on va pas se le cacher, il aurait dû donner sa réponse il y a déjà bien longtemps, mais il joue la montre.
Milton Keynes, peut-être.
Il espère plutôt certainement Carlos Sainz aller du côté de chez Red Bull, et il joue la montre pour ça, pour avoir réellement le plein pouvoir d'une certaine manière pour prendre sa décision. J'avoue que je suis à la place d'Audi. Je me dis, au bout d'un moment, il nous prend pour qui, là, en fait?
On est un constructeur qui a marqué l'histoire
du sport automobile, et en Formule 1, on veut arriver pour gagner, mettre un projet pour gagner, et lui, il est là, il pense qu'on est personne, en fait. Pour le coup, je serais Audi, en train de chercher un autre pilote.
Ils ont mis un véritable ultimatum. Et puis, je vais vous dire, la vraie rumeur qui court dans le paddock, vous le savez pas, vous, mais moi, je le sais. C'est Sainz chez Haas, parce qu'il y a un moteur Ferrari, bien sûr.
Ah oui,
c'est évident, ça. Enfin, je comprends pas que personne l'ait évoqué. Ben, moi, je l'évoque.
et Jean-Luc aussi. On parle de Bottas chez Mercedes l'année prochaine aussi.
Ah, ça, c'est mon petit chocolat, ça.
Ouais. Alors là, moi, je sais pas, mais bon, peut-être Toto Wolff consomme des produits bizarres de temps en temps. Je veux pas être méchant avec Bottas, qui est un charmant garçon, mais bon, à mon avis, il a eu son tour. Hein. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Moi je veux bien, c'est le retour de Bottas chez Mercedes. Bah là, on va peut-être se marrer un peu la semaine prochaine. Je suis dur.
En tout cas, Valtteri, c'est assurément la plus belle coupe mulet du paddock. Ouais. Et ça, je vous vois tous bien là avec sa petite coupe de cheveux. Mais ça vous ira à dire.
Ça lui va vachement bien, moi.
Ce qui est tout de même intéressant, c'est que Bottas a dit ouvertement dans les médias qu'il était sûr à 99,9% d'être sur la grille l'année prochaine. Et ça, pour le coup, c'est quand même une grosse info.
Oui, mais il a pas dit en tant que quoi. Il y a plein de consultants sur la grille.
Il y a la possibilité d'aller du côté de chez Williams, où là, pour le coup, je pense que c'est la priorité pour...
Ça, c'est clairement possible, le retour du côté
de chez Williams. Il y a eu rendez-vous avec Jens Valls, d'ailleurs, dans le paddock d'Émilie-Romagne le dimanche matin du Grand Prix, si je ne me trompe pas. Donc, la possibilité de voir Bottas en prochain Formule 1, c'est bien, mais le voir chez Williams, ce sera encore mieux.
Mais attends, on en parle même chez Alpine,
C'est ce que j'allais vous dire. Vous qui êtes plus insider que moi, Jean-Luc, Alex, j'ai lu ça, moi. J'ai lu que ça pouvait être aussi une option, vous y croyez-vous?
Moi, je pense que
chez Williams,
Alpine. Bottas
ah,
à, chez
non,
Alpine.
Non.
Moi,
non,
il faudrait déjà qu'Ocon ou Gasly partent, du coup. Logique.
A, je pense déjà qu'il y en a non. un des deux qui partira à l'issue de cette saison. Ocon, il faut savoir que le destin peut être lié à Mercedes, peut être lié à Audi ou peut être lié.
Non, mais ils cherchent à partir, ça c'est clair. Ils cherchent à partir tous les deux, évidemment. Qu'est-ce que tu ferais à leur place, objectivement? Évidemment.
Il y a une place en F2, non, c'est ce que tu disais.
Non, mais tu sais, lancer les fausses rumeurs, je vais te dire, le grand jeu au Dakar, c'était ça à l'époque. L'étape de demain est annulée. Alors je vais dire, tu chronométrais pour savoir combien de temps ça te revenait. Et les gars, on y va. Les Sainz chez As, moi j'y crois. Moteur Ferrari, moi j'y crois. C'est vraiment l'option.
Vous l'aurez entendu ici en premier.
On le savait avant tout le monde.
pour terminer, juste Nico, par rapport à Esteban Ocon et Alpine, je me demande réellement ce qui a pu se passer en interne pour que Esteban Ocon, et du moins qu'il y ait cette rumeur du côté de chez As, si ça s'avère vrai. Si c'est vrai, mais qu'est-ce qui a pu se passer en interne du côté de chez Alpine pour qu'Esteban Ocon se dise j'arrive à un point où j'ai envie d'aller chez As ou je préfère quitter le navire Alpine pour aller du côté de chez As?
Ah oui, là c'est grave.
Ils y croient plus, à la longue.
C'est clair. Et on va suivre ces dossiers vraiment intensément. Prochaine course, les gars, la semaine prochaine, ça enchaîne à Monaco.
Nico, tu vas pas nous dire que tu t'es ennuyé à Monaco.
Mais moi, quand je discute avec vous, après, je m'ennuie jamais. C'est ça qui compte. Peut-être que devant ma télé, des fois, je suis là, je fais un peu le difficile, mais dès que je suis avec vous dans le paddock RMC, je me régale.
Faut écouter la radio, c'est tout. C'est la leçon.
N'hésitez pas, bien évidemment, je vous le répète à chaque fois, à nous noter sur les plateformes de téléchargement, c'est super important pour le podcast, et à nous dire ce que vous pensez de nos formats, de nos débats qui sont parfois enflammés. On se retrouve du coup la semaine prochaine, débrief du Grand Prix de Monaco avec toute l'équipe. Bye bye, ciao.
Salut à tous.
Le paddock RMC.